maintenant, tout de suite, avec une rencontre qu'on a appelée l'heure de vérité. L'heure de vérité parce qu'on a affaire à deux livres. Le livre d'un comédien et d'un humoriste d'un côté, qui est un journal qui couvre les années 2015 à 2017. Un roman pamphlétaire de l'autre côté, d'un ancien patron de la presse romande. On va voir comment l'humour et le journalisme peuvent cohabiter. Est-ce qu'on envisage l'actualité de la même manière? Je vais vous demander d'accueillir celui qui signe Fake News Lémanique aux éditions Chaubert, Antoine Échaquet. Je l'ai dit, il est comédien, humoriste. Il signe Journal d'un infréquentable 2015-2017 chez Grasset. Merci d'accueillir Stéphane Guillon. Tranquille. On est en Suisse.
Non, c'est bien, vous m'avez filé le canapé, c'est génial.
Bah ouais, on sait recevoir au Livre sur les quais, mon cher.
C'est une belle tente, en tout cas.
Je le disais, humoriste, acteur, vous publiez chez Grasset, Journal d'un infréquentable 2015-2017. J'aurais dire que c'est plus qu'un journal, c'est une sorte de mise au point aussi. Est-ce que c'est aussi l'expression de quelques blessures ou de quelques craintes?
Ce journal?
Oui.
Oui, parce que je... L'avantage d'un journal, c'est qu'on peut finalement parler de tout et de rien, faire des digressions, des sauts dans le temps, et ça m'a permis, tout en commentant l'actualité politique et sociale pendant à peu près un an et demi, de convoquer des souvenirs des gens que j'avais croisés, et par ce biais aussi de parler de moi.
Et donc de quelques douleurs, de quelques blessures. Il y a des trucs violents dans votre livre. Moi, j'imaginais pas qu'un humoriste qui passe à la télé, il pouvait recevoir les poubelles des voisins par-dessus son portail, par exemple.
Ah, vous voulez dire les réactions
ouais,
de
ouais,
ce que
par exemple.
Je peux écrire ou dire.
Oui, il y en a des violentes.
Oui, il y en a eu quelques-unes, mais c'est pas les plus nombreuses et les plus courantes. Il y a toujours une petite frange de personnes qui réagissent violemment, on les connaît.
Et c'est de celles-là dont on parle en général. Antoine Échaquet, vous avez été éditeur délégué de la Tribune de Genève, membre du conseil d'administration de l'ATS, l'agence télégraphique suisse. Pour Stéphane, c'est l'équivalent de l'AFP en Suisse.
Quand même avec un autre fond. Hein.
Oui, on en parlera. Membre du conseil d'administration de la télévision locale Les Monts Bleus, directeur et rédacteur en chef du Matin Semaine et du Matin Dimanche, reporter à 24 heures, journaliste à Radio Suisse Internationale, et vous avez fait le plus beau métier du monde, vous avez été localier à la Tribune de Genève. Vous publiez chez Chaubert Édition Fake News Lémanique, roman pamphlétaire dans lequel vous vous mettez dans la peau d'Isabella Schmitt, journaliste pigiste, la pauvre. Pourquoi avoir choisi le pamphlet? L'expression de quelques blessures, de quelques craintes?
Non, rien de tout ça. Je ne voulais blesser personne. Et puis en plus, j'adore l'humour. Et je pense qu'avec l'humour, on peut tout exprimer, y compris des sujets pour le moins délicats. Et en plus, c'est une dame qui travaille sur le terrain. Elle fait le travail basique, le vrai, celui de l'enquête, celui du terrain, celui du vrai ou du faux, mais au moins on peut définir quel est le vrai du faux. Elle peut avoir de l'humour, elle aussi. Et en plus de ça, ça me permet de ne pas attaquer les éditeurs, hein, un peu lâchement, je dois le dire. Ça me permet de ne pas régler de compte, toujours aussi lâchement. Et ça me permet d'en rigoler.
Mais tout en disant des choses.
Alors oui, c'est fake news. Je ne sais pas si vous en avez découvert une dans ce livre. Mais c'est à vous de le dire et au lecteur de choisir.
La question est posée à la toute fin du livre. Sont-ce là des fake news? Dans un très joli effet de style. Votre matière première à tous les deux, finalement, c'est l'actualité. Stéphane Guillon, vous racontez comment vous vous êtes fait engueuler après avoir taclé Bolloré. Et vous posez cette question que je trouve très légitime et très intéressante. Vous dites « Qui parle ?» Je ne suis pas journaliste, mais humoriste. J'ajoute que le fait de me laisser m'exprimer librement est essentiel pour l'image d'un groupe mis à mal précisément sur ce point. Vous faites une très nette distinction entre humoriste et journaliste. Pour vous, ce n'est pas du tout le même métier.
Je pense que l'humoriste a le droit à l'outrance. Il a le droit à l'impertinence, à l'insolence, peut-être aussi le journaliste. Mais en tout cas, il y a une chose qui nous rassemble, qui rassemble le journaliste et l'humoriste, c'est que on est censé, l'humoriste est quand même censé vérifier ses sources comme un journaliste. Mon épouse, qui fait les mises en scène de mes spectacles, me dit souvent, me répète souvent cette phrase, n'est drôle que ce qui est exact. C'est-à-dire que, voilà, donc moi, je fais toujours ce travail de vérification, notamment à France Inter. C'est-à-dire, je ne peux pas rire sur n'importe quoi. Je parle d'un fait précis, je vérifie mes sources. Et après, effectivement, je fais ce travail d'humour, de caricature. Je pousse les feux, je flirte avec les lignes jaunes. Mais ce que je voulais dire par rapport à votre, oui, par rapport à votre question, c'est-à-dire qu'il faut resituer. Vincent Bolloré arrive à Canal+, qui a symbolisé pendant des années la chaîne de la liberté et de l'impertinence.
Mais vous dites clairement que c'est Canal+ qui vous a fait, hein.
Oui, je dois énormément, je dois beaucoup de choses à Canal+. Donc il arrive dans ce, il rachète ce groupe et il vire les guignols. Enfin, il les détruit en les mettant encryptés. Il enlève le zapping, il enlève des émissions emblématiques. Il n'y a plus une tête qui dépasse et notamment certains reportages qui mettaient ses intérêts en danger, il les censure. Donc, il pratique une censure à outrance.
Très clair.
Très clair. Et moi, par rapport à ça, je pense que j'étais... Je ne dis pas que c'était un rôle facile à porter tous les jours, mais j'étais, je pense, une caution pour lui. C'est-à-dire, il pouvait dire « quid de la liberté d'expression ». Stéphane Guillon est tous les samedis soirs sur ma chaîne et il dit absolument ce qu'il veut. Je pense qu'il aurait pu être plus malin qu'il ne l'a été, le Breton.
Antoine Deschaquet, vous choisissez de la forme pamphlétaire pour votre roman. Le pamphlet, c'est une forme d'humour aussi. Je me suis demandé finalement si avec l'humour, on n'arrivait pas à s'approcher plus près de la vérité.
En ce qui me concerne, oui, certainement. C'est par la parole explicative, mais néanmoins... un tout petit peu dans les nuages, que l'on réussit à faire passer un fait ou quelque chose de vraiment réel. Ce que vient de dire Stéphane Guillon m'intéresse beaucoup, parce que vous faisiez cette revue de presse assez connue. Vous vérifiez même ce que vous allez dire, et vous le dites bien, et vous le dites drôlement. Mais alors, une revue de presse, c'est déjà de la matière première qui, théoriquement, est vérifiée. Est-ce que vous vérifiez pour votre revue de presse, ce qui a déjà été théoriquement vérifié?
Oui, parce que vous savez comme moi qu'il y a énormément d'erreurs sur la presse, notamment sur la presse Internet, avec laquelle moi je travaille beaucoup, et que je pense qu'il faut toujours se méfier, maintenant qu'on a une presse Internet qui est adepte de la petite phrase, de la déformation, etc. Je pense qu'il est essentiel de vérifier plusieurs sources. Moi, je me rappelle, j'avais une info. Bon, alors c'était, je sais pas, n'importe quoi, Le Figaro. Je regardais ce que disait Le Monde, je regardais ce que disait un tel, et voilà, j'essayais de vérifier, quoi.
Alors, je sors un petit peu de vos deux livres, mais c'est très intéressant ce que dit Stéphane Guillon, parce que moi, qui viens de la presse aussi, j'ai le sentiment qu'avec le temps, les journalistes vérifient de moins en moins là où on devait recouper. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de sources d'informations qu'on considère comme fiables et on ne vérifie plus.
Oui, mais alors est-ce que vous pensez que l'actuel président des États-Unis vérifie ces informations avant de les tweeter? Oui, on mais a non, aussi affaire là à une autre forme, à une autre forme de comique quand même.
On aurait pu penser que c'était Stéphane Guillon qui partirait dans l'excès tout de suite. Ben non, c'est Antoine Deschaquet.
Oui,
c'est terrible quand même.
C'est vrai que je le trouve très retenu aujourd'hui. Nous sommes en territoire neutre en Suisse. Lâchez-vous, Stéphane Guillon, lâchez-vous.
Il n'y a pas de souci. Je vais aller le chercher sur autre chose, Stéphane Guillon, parce que moi j'ai beaucoup aimé votre livre. Je trouve que vous dites des choses très sensibles, très tendres. Parfois, des choses violentes aussi. Mais vous faites cet aveu, je suis super sentimental, il n'y a rien de pire. C'est vrai, quand on fait une revue de presse régulière, être sentimental, c'est pas coton.
J'ai dit exactement que j'étais un sniper sentimental. C'est-à-dire que quand je blesse quelqu'un, je me sens mal tout de suite derrière. J'ai dit que si j'étais chasseur et que j'avais blessé un lapin, je l'amènerais chez le vétérinaire.
Voilà, c'est... Mais vous faites quoi? Alors vous allez vous excuser après quand vous
avez
blessé?
Ah non, jamais.
Jamais.
Non.
Pourquoi?
Enfin, si... Je vais mettre un petit bémol. Il m'est arrivé, quand j'ai démarré en 2003 chez Stéphane Bern, je faisais les portraits des invités. Il m'est arrivé d'être outrancier avec des gens, finalement. Je me souviens d'un papier, notamment sur Michel Delpech, où, voilà. Là, oui, j'ai été voir Michel Delpech plusieurs années après, et je lui dis, ce papier était outrancier, c'était un mauvais papier, je vous ai certainement blessé, je vous prie de m'excuser. Ça, oui, je l'ai fait 2-3 fois, avec Michel Galabru aussi. Je dis, voilà, j'ai écrit des mauvais papiers, parce que quand vous écrivez tous les jours, et puis je débutais, etc. Ce que m'a dit Guy Bedos, à un moment donné, il m'a dit une phrase très intéressante, il m'a dit, méfie-toi de certaines cibles. En revanche, je n'irai jamais m'excuser quand j'ai énervé le pouvoir Nicolas Sarkozy et consorts. Là, je ne me suis jamais excusé. Fait sortir Michel Onfray de Ségon, je veux dire, ou Bernard-Henri Lévy. Ce sont des gens qui sont capables de se défendre, qui ont beaucoup de pouvoir.
Des bonnes cibles.
Et des cibles intéressantes.
Oui.
Et donc là, non, jamais de la vie.
Antoine.
Oui, c'est intéressant ce que vous dites. Est-ce que ça vous fait mal? Et je vous crois, j'ai lu votre livre, vous êtes sensible, et là, il n'y a aucun doute que des fois, vous devez vous dire, mon Dieu, je suis allé trop loin. D'ailleurs, le Stéphane Guillon, quand il est seul, c'est là qu'il doit être vraiment intéressant. Parce que finalement, est-ce que ça ne vous ferait pas plus mal encore que de ne pas pouvoir faire mal?
Non, mais moi, je réfute l'idée que je sois quelqu'un de méchant ou quelqu'un... Je n'ai jamais cherché, je ne me suis jamais levé le matin en me disant « je vais faire mal à quelqu'un ». En revanche, il y a des choses qui me heurtent, qui nous heurtent. Moi, mon moteur, c'est l'indignation. Donc, quand Michel Onfray tweet après les attentats du Bataclan, quelques heures après les attentats du Bataclan, « qui sème le vent récolte la tempête », soi-disant « bien fait pour vous », alors qu'on a des adolescents qui sont en train de mourir dans une salle de spectacle, je trouve cette phrase scandaleuse, et de la part en plus d'un intellectuel comme Michel Onfray. Et quand il vient chez Ardisson, je décide de me le faire, et je me le fais. Mais j'ai... Voilà, alors si ça, c'est être méchant, oui, je suis méchant.
On reviendra sur cette question de la limite de l'acceptable parmi les invités, parce que vous en parlez dans le livre aussi. Je reste une seconde sur le sentimentalisme, mais c'est pour titiller Antoine Échaquet cette fois. Parce que dans votre roman pamphlétaire, il y a une forme de sentimentalisme aujourd'hui. Alors on ne va pas jusqu'à dire « c'était mieux avant », mais il y a un petit quelque chose quand même.
Alors j'ai dû mal écrire ce livre, parce que ce n'est pas du tout mon sentiment. Moi, je crois en l'avenir. Je suis un optimiste. Qui a ses nuits parfois pessimistes. Mais je trouve ce qui se passe est extraordinaire. La mutation que connaît la presse romande et la presse internationale aussi, mais puisque nous sommes ici, parlons-en. Il y a une mutation en ce moment qui se passe très rapidement, qui aurait pu être préparée, qui ne l'a pas été. On en voit les conséquences. Pas une semaine sans qu'un rédacteur, j'exagère un peu, mais enfin l'émission est humoristique, un rédacteur en chef qui démissionne, un journal qui met la clé sous le paillasson. Bah,
soyons clairs, c'est Pierre Rucci qui se fait larguer, quoi. Le rédacteur en chef de la Tribune de Genève s'est fait débarquer la semaine dernière.
Comme c'est un ami, je vais dire qu'il est parti. Mais ce nonobstant, on peut se demander en effet, comment on peut se dire plutôt en effet, que c'est, en plus ce n'est pas fini du tout. Alors en même temps, il y a de quoi rire. Heureusement que les humoristes sont là pour nous apporter le sourire. Mais en même temps, on est dans un domaine qui est véritablement en danger. Et ce sourire, ce rire, dans ces circonstances-là et dans cette ambiance-là, je pense que ça suscite plus de susceptibilité, de sensibilité un peu outrancière et autres. Je pense parce que... Honnêtement, quand on fait une revue de presse et qu'on sait ce qui s'est passé ce jour-là, disons, en Syrie, on n'a plus tellement envie de rire. Alors peut-être qu'on dort mieux parce qu'on a ri après, ce qui est très sain, paraît-il, selon la psychologie. Ce n'est pas ma spécialité.
Alors, mais on enfin, a même des ministres de suisses qui ont dit que rire, c'est bon pour la santé.
Ja, genau.
Stéphane Guillon, on découvre beaucoup de choses dans votre journal, notamment que vous êtes un grand angoissé. Moi, je ne pensais pas que vous aviez cette peur de ne pas trouver la bonne idée pour la chronique, de peur que la chronique ne soit pas bonne, une espèce de trac avant d'entrer sur le plateau. Il y a beaucoup d'angoisse chez vous, quand même.
Oui, mais j'ai découvert que tous les humoristes, même ceux que j'admire le plus, citons Pierre Desproges, le regretté Pierre Desproges, Il y a une chose qui est frappante dans, quand on lit les textes de Pierre Desproges, c'est la facilité. C'est-à-dire,
c'est-à-dire tout le boulot qu'on ne voit pas.
C'est-à-dire que ça coule de façon extraordinaire et on se dit, mais quelle facilité de plume. Et Jean-Louis Fournier, que vous connaissez certainement ici, qui a écrit plusieurs livres, notamment Où on va, papa, je crois.
Et qui était très proche de Desproges.
Qui était très proche de Pierre Desproges et qui était le réalisateur de la minute de Monsieur Cyclopède. Et il me disait que c'était un angoissé fini qui fermait toutes les portes chez lui, qui ne supportait pas les enfants qui jouaient le moindre bruit et qui traversait des périodes d'angoisse terribles pour arriver à écrire. Alors, je ne me compare évidemment pas aux grands Desproges, mais ça m'a rassuré de me dire que finalement, justement, voilà, je pense que quelqu'un qui est un acteur qui n'a pas peur avant d'entrer sur scène ou un écrivain qui se dit ça va être facile aujourd'hui d'écrire, moi j'en connais pas.
Alors, puisque vous parlez de Desproges, je vais utiliser un pensif. On lui attribue cette phrase qui dit que l'humour c'est la politesse du désespoir. Votre métier d'humoriste, c'est votre politesse à vous?
Moi, je préfère la phrase de Beaumarchais, je m'empresse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer, qui résume parfaitement le métier d'humoriste. C'est-à-dire, tout à l'heure, je parlais d'indignation, qui est mon moteur. Et l'indignation, il y a aussi parfois beaucoup de peine. Moi, je suis sensible à plein de choses dans l'actualité, comme tous les gens qui sont ici. Oui. Un infanticide, une catastrophe aérienne, un drame, une guerre, des enfants gazés par monsieur et madame el-Assad. Tout ça me touche, évidemment, comme tout le monde. Après, je pense qu'on se doit aussi, parce qu'on peut faire réfléchir. Le rire est une soupape. Vous savez, quand j'ai été viré de France Inter, j'ai rencontré Gisèle Halimi et Gisèle Halimi m'a dit « C'est une erreur de vous avoir viré. Le rire est une soupape. Et on a besoin de la soupape. » Et je pense que c'est très très juste. C'est pour ça que je pense aussi que Vincent Bolloré fait une erreur. Parce que des gens qui ont des métiers de merde, qui ont des vies de merde, qui ne peuvent pas s'exprimer, qui sont comme nous indignés, eux, quand ils écoutent Bedos, quand ils écoutent les Guignols, quand ils écoutent des humoristes impertinents, ça leur fait du bien. Ça leur permet d'évacuer. Et si vous enlevez la soupape, et bah, cette colère, elle va aller ailleurs. Et c'est pas terrible.
Pas toujours au bon endroit. Antoine Échaquet.
Je me fais peut-être l'avocat du diable, mais prenons un autre humoriste qui sévit sur TF1, après le journal. Alors, je me suis posé la question, justement, ce lien dont vous parliez, Pascal Chouvet. Ce lien ou cette frontière pas toujours très bien définie entre l'info et l'humour. Parfois, je trouve que c'est un petit peu catastrophique et pourtant, je crois être tout à fait décontracté par rapport à l'humour parce qu'il y a des jours qui sont vraiment très mauvais et on a un téléjournal TF1 qui prône la sinistrose. On ne va pas entrer dans les détails franco-français. Et puis ensuite, on vient et il y a quelqu'un qui vous dit tout le contraire, qui ridiculise le président de la République, Mélenchon, les autres, tout le monde et autres. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'était? Ce qui se passe est grave ou pas? C'est associé, la proximité est tellement évidente, elle vient après. Une fois encore, si les gens dorment mieux après, tant mieux. Mais il y a quand même une limite par rapport à l'humour, c'est-à-dire le lieu où il se trouve et au moment où il peut être défini. Je vous provoque un peu.
C'est le oui, vous provoquez un peu parce que moi, je pense qu'il faut tabler sur l'intelligence du public. Et moi, on m'a fait ce reproche-là parce que j'étais à 7h55 à France Inter, qui c'était la Mecque, là. C'était, Et on disait, on mélange l'humour et la politique. Comme disait Coluche, j'arrêterai de faire de la politique le jour où les politiques arrêteront de nous faire rire. Mais sincèrement, il y a quand même entre le journal dont vous parlez et Nicolas Canteloup une coupure pub. Voilà, et
du temps de cerveau disponible, oui.
Oui, enfin, je pense quand même que les gens sont à même de faire le distinguo entre une actualité et puis vous dites aussi qu'il ridiculise Macron, mais Macron n'a pas besoin de Canteloup pour se ridiculiser, il le fait très bien tout seul.
Mais je ne m'attendais pas de vous que vous mettiez tant la publicité en exergue comme coupure entre l'info et l'humour. Je vous remercie infiniment. Ça montre une largesse d'esprit extraordinaire.
Très bien. Ils vont s'entendre, ces deux-là, finalement. Je reviens sur ce que je disais à Stéphane Guillon tout à l'heure par rapport au trac et à la pression, etc. La peur, Antoine Échaquet, votre héroïne, Isabella Schmitt, la connaît aussi parce que, un, elle est journaliste locale. Ça, c'est déjà un métier en voie de disparition et très sérieusement menacé. Mais en plus, elle est pigiste. On fait quoi? On s'assied, on pleure?
Ou on en rit, parce qu'elle-même, elle en rit, elle est très autocritique. C'est-à-dire, ce qu'il y a d'extraordinaire, n'est-ce pas, c'est qu'elle explique ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire.
Alors, il y a de plus en plus de choses.
On prend des exemples
faire,
pratiques. Il faut prendre un peu des sujets délicats. À Lausanne, par exemple, il y avait des dealers qui se baladaient partout dans le centre de la ville. La gauche, comme la droite, ont dit c'était impossible à faire. Zurich avait connu une mauvaise expérience. Ils ont trouvé une forme de solution. Et puis la presse en parlait que quand il y avait des incidents, sinon pas. Il a fallu qu'un cinéaste, qu'on ne peut pas soupçonner d'être à droite, c'est un euphémisme, dise maintenant ça suffit cette histoire. Et à ce moment-là, il y a eu comme une sorte
de tsunami. Tsunami avec cette affaire.
C'était extraordinaire. On a des secteurs de localiers qui enquêtent. Ça, c'est au vu et au sus de tout le monde depuis 4-5 ans. Et il a dit, maintenant, ça suffit, les gars, on débloque, hein, en quelques termes. Et alors, il a fallu ça pour que ça bouge. Ça a réveillé le politique et le média. Alors, on ne va pas entrer dans les grandes séries. Je pense qu'il y a deux piliers du pouvoir, le politique et le médiatique, qui sont parallèlement en train un tout petit peu de descendre et de perdre un peu de leur potentiel.
Oui, puis à Genève, ils sont en train de régler leur compte.
Et à Genève, en ce moment, on sait plus très bien parler. Il y a toujours la présomption d'innocence. Oui, donc, on ne peut pas. C'est déjà une censure en soi. Donc, la localière qui est là et qui souhaite faire une enquête, mais tous les jours, c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne joue pas au centre de Lausanne, il faut régler ça. C'est politiquement incorrect, on ne le fait pas. Une espèce de contrôle personnel, journalistico-tendance, je dirais, qui bloque les choses. Et avec ça, on n'en fait aucun humour. Personne n'en parle, personne n'en rit. Là, on peut en pleurer, par ailleurs. Mais c'est assez extraordinaire. Donc là aussi, il y a des endroits où on a besoin d'humour, on n'en a pas. Parce que c'est vraiment du très sérieux et du très lourd, et d'autres où c'est quand même un peu plus léger, parce que Macron, au bout de la 10e fois, on a dit ce qu'on pensait de lui, et c'est bon, c'est toujours bon, c'est de l'humour à répétition.
Oui, mais il ne faut pas baisser la garde en même temps sur Macron, parce qu'il y a du boulot encore. J'ai parlé de ce qui vous tendait un peu tout à l'heure, Stéphane Guillon, mais il y a des choses qui vous décontractent, si j'ai bien lu votre journal. La première, c'est de contrarier la twittosphère. Ça, vous aimez beaucoup. Et je trouve que c'est intéressant, parce que finalement, aujourd'hui, Twitter, Instagram, Facebook un peu moins peut-être, mais c'est aussi un des lieux de la communication, et c'est un des lieux qui devient, j'allais dire, le plus répercutant de l'information. Un tweet bien foutu de Stéphane Guillon, ça fait mal.
Je pense surtout que ça devient, ça l'a peut-être toujours été, la mecque de la bien-pensance. C'est-à-dire aussi. Que Twitter, c'est fou comme les gens, tout d'un coup, mais c'est parfois lancé par les médias, on leur dit « faut penser ça sur telle personne ». Et tout le monde pense la même chose sur telle personne.
Oui.
Et quand vous venez, vous, un peu à contre-courant et que vous écrivez quelque chose, alors ça part très, 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 très loin.
Et très violemment.
Il y avait ces footballeurs-là du Paris Saint-Germain, Rabiot, qui... Moi, je trouvais ça plutôt pas mal. Il n'est pas sélectionné par Didier Deschamps et il veut pas.
Il était dans la réserve.
Il était dans la réserve. Il dit moi, non, je ne suis pas dans la réserve. Fuck, je pars en vacances.
Ouais.
Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien cet esprit-là.
Il a du caractère, le garçon, en tout cas.
Donc, je le dis. Ouais. Mais je me suis fait pourrir. Pourrir parce qu'il fallait penser comme tout le monde, comme les journalistes, comme la Fédération française de foot, que ce garçon, Rabiot, vraiment, il avait été absolument indigne de refuser d'être remplaçant dans la merveilleuse, l'immense équipe de France.
L'été passé, le mercato terminé, il s'en sort pas trop mal, Rabiot.
Oui, mais je pense.
Moi, je pensais qu'il aurait plus de soucis.
Je pense qu'il n'est pas prêt de retourner en équipe de France.
Ah, ça, en équipe de France,
comme Didier Deschamps n'est pas prêt de se refaire faire les dents. Oui, c'est la même chose, quoi.
Donc on va monter une équipe avec Rabiot et Benzema pour commencer, puis on verra les autres.
Pourquoi
après.
Pas. Hein
deuxième chose qui vous détend beaucoup, c'est d'énerver un militant Front National. Mais ça, alors, je pense que c'est une excellente détente.
Plus susceptible que le militant du Front National, vous avez le militant Front de Gauche.
Plus susceptible. Ah, très bien.
Oui, oui.
Vous en avez encore en magasin ?
Non, mais je voilà.
Non, mais vous avez des noms, surtout.
Ah oui, j'ai des noms. Ils n'ont aucune espèce d'humour sur eux-mêmes, que ce soit Raquel Garrido, que ce soit Corbière, que ce soit Mélenchon. Ils partent au quart de tour.
Ça ravit madame. Elle est aux anges. Elle se tient plus.
Non, c'est...
Riez, ça fait du bien.
Oui. C'est bon pour la santé.
Non, la France insoumise, ils sont très... Oui, c'est très, très drôle de les énerver. Oui. Ils ont l'esprit de sérieux. Il n'y a rien de plus terrible, quoi. Ouais, c'est terrible.
Mais vous écrivez dans ce journal que vous êtes assez fier de certains tweets que vous balancez contre Marine Le Pen, par exemple. Ça fait presque offre de salut public.
Oui, enfin, parce qu'on a essayé de nous faire croire, là aussi, que... et puis des intellectuels, des journalistes brillants, qui vous disent à longueur de journée que Marine Le Pen, c'est pas son père. Que Marine Le Pen, quand même, c'est bon. Et puis, si vous creusez un peu, si vous vous renseignez un peu, vous vous apercevez que si, Marine Le Pen, c'est son père. Donc, que ces gens fassent leur travail de journaliste. Hein.
Est-ce que c'est sa nièce aussi ?
Ben, la nièce, vous allez voir que vous avez raison de soulever le problème.
On l'a pas fini.
Non, elle va faire une belle carrière, je pense. Ouais, hein. Ouais, oui. Non, non. Nous serons vos premiers migrants, on arrivera à la nage.
Mais vous savez, Stéphane, que la Suisse a toujours été un pays très accueillant.
Bien sûr.
En même temps, depuis là, quand on s'extasie devant le paysage, on devrait dire qu'est-ce que c'est beau la France. Hein, parce qu'en face, c'est la France.
C'est couvert, non ?
Oui, oui, un petit peu, mais ça va. Vous auriez dû venir l'année dernière. Ah non, il y a deux ans.
Il paraît que c'est le premier...
Il y a deux ans, il faisait très, 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 très beau. Si on vous lit attentivement, Antoine Aix-Chaquet, on n'énerve pas les militants du Front National en Suisse. Mais les médias ont plutôt tendance à cirer un peu les pompes à un parti que je ne citerai pas, mais qui commence par UD et qui finit par C. On en parle beaucoup dans ce pays, un peu trop, non ?
Oui, moi j'ai peur qu'on martyrise ce parti, ce qui fera effet contraire. D'ailleurs, prouve, c'est le plus grand parti en la matière. Je pense qu'il y a un peu une tendance de mode de salon, si je puis me permettre l'expression, j'y mettrai des guillemets, il faut être très prudent en Suisse, beaucoup plus qu'en France, je crois quand même dans le vocabulaire choisi. Mais il y a une sorte de snobisme que de dire que tout ce qu'ils font est faux. Ils posent les bonnes questions et ils apportent toutes les mauvaises réponses, d'accord. Mais au moins, ils posent les questions et personne d'autre y répond.
Et dans votre livre, vous dites pourquoi les journalistes ne posent pas ces bonnes questions, quitte à amener d'autres réponses.
Absolument.
C'est le boulot des humoristes, ça aussi. De reprendre les bonnes questions, mais d'y répondre différemment.
Peut-être.
Oui, il faut déjà qu'on se mette d'accord, savoir si les partis d'extrême posent parfois les bonnes questions, en y apportant de très mauvaises réponses.
Oui, je pense que parfois, ils posent de bonnes questions, évidemment.
Et comme on voit que les journalistes ne posent pas ces bonnes questions en y apportant des réponses un peu plus sensées, est-ce que, du coup, ça devient le boulot des humoristes ?
Oui,
ou ça pourrait le devenir ?
C'est intéressant, parce que là, vous êtes un peu gêné pour la première fois depuis que vous êtes là. Il y a une retenue, une réflexion.
C'est l'heure où je vais commencer à m'assoupir. Non, mais parce que...
Est-ce que le préposé au Karcher est dans la salle ?
Chouette, je vais pouvoir m'exprimer.
Un petit café serait le...
Un petit café ? On arrive à organiser un petit café pour Stéphane ? Oui, regardez.
Non, parce que c'est une question complexe, parce que dire qu'il pose les bonnes questions, parfois, ouais, mais c'est facile de poser une bonne question quand vous n'avez pas la réponse. Ou c'est vrai que c'est des gens qui n'ont jamais été au pouvoir, donc... Il faudrait les mettre au pouvoir, pas au pouvoir suprême, mais effectivement leur donner des postes et voir ce qu'ils font. Les mairies qui ont été gérées par le Front National, ça s'est révélé catastrophique. Donc effectivement, il faut les éprouver, ces gens-là. C'est-à-dire que, voilà, parce que c'est facile de dire, de poser les bonnes questions à un moment donné.
En Suisse, alors c'est pas aussi extrême que le Front National,
mais c'est quand même
des partis de droite. Je pense au MCG, à l'UDC, il y a quand même un certain nombre de partis qui sont très populistes et très de droite, ils sont au pouvoir.
Il faut vouloir. Ce qui m'impressionne, c'est plutôt en France, chers voisins, c'est que quand même, il y a une tendance, pas chez les humoristes, mais les émissions en général légères qui mêlent quand même la politique, c'est qu'on en vient toujours finalement au Front National. Et moi j'ai l'impression qu'on lui fait indirectement une pub, c'est-à-dire qu'ils deviennent incontournables. Vraiment, on en fait quelque chose. Je trouve que le danger commence à être assez important dans ce domaine.
Mais la faute aux médias.
La faute aux médias, c'est la même chose en Suisse par rapport à l'UDC. On ne rate pas une occasion. Quelqu'un dit un mot de travers et on le fait.
C'est Jean Cocteau qui disait très joliment que le tact dans l'audace, c'est de savoir jusqu'où on peut aller trop loin. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellé dans votre journal, Stéphane Guillon, c'est à propos de Farid Benyettou. Quand Farid Benyettou est invité dans l'émission, vous faites votre chronique.
Peut-être dire qui.
Oui. Alors, Farid Benyettou, c'est le tristement célèbre mentor de Shérif Kouachi qui a commis les attentats contre Charlie Hebdo, repenti. Soi-disant
repenti.
Et qui est invité dans l'émission. Ça vous pose un vrai cas de conscience.
Oui, parce que Thierry Ardisson l'invite jour pour jour, un an après les attentats de Charlie Hebdo. Et ce monsieur, donc, cet individu qui a été le mentor des assassins des journalistes de Charlie Hebdo, certains étaient des amis, certains sont même peut-être venus ici dans ce festival. Et ce monsieur est repenti, a vérifié, et il a écrit un bouquin. Il vient faire sa promo chez Thierry Ardisson, et à un moment, il va sortir un badge « Je suis Charlie ». Et Thierry Ardisson et son producteur vont choisir de zoomer sur ce badge. Donc tout ça a été évidemment, on en a parlé en conférence, moi j'y vais pas aux conférences de rédaction, mais ça a été, ils en ont évidemment parlé, ils ont évidemment décidé de zoomer sur le badge « Je suis Charlie ». Et comme l'émission est enregistrée le jeudi et diffusée le samedi, quand bien même il y aurait eu une erreur sur le zoom et sur le fait d'inviter cet individu, on avait tout loisir le vendredi, jour où l'émission est montée, de faire machine arrière et de ne pas diffuser ces images ou de les diffuser avec un avertissement, ce qui n'a pas été fait. Et moi, ça m'a posé problème parce que j'étais en tournée, parce que je vois cet individu que je ne reconnais pas, qui a des Ray-Ban et une casquette, et je me retrouve sur le même plateau que lui à faire rire en ne sachant pas qui c'est. Et Laurent Baffy lui a serré la main parce que pareil, Laurent Baffy ne savait pas qui c'est. Et on se retrouve piégé avec cet individu.
Ça veut dire quoi? Que si vous aviez su qui c'était, vous auriez refusé de faire votre chronique?
Oui, certainement. Oui, parce que le rire, vous savez, le rire, c'est le malaise des proches quand il se retrouve au tribunal des flagrants délires face à Jean-Marie Le Pen et qu'il s'aperçoit que Le Pen rit de son papier. Et c'est ce qu'il dira. À un moment donné, il dit « Est-ce qu'on peut rire de tout ?» Oui, mais pas avec n'importe qui. Le rire, quand vous faites rire quelqu'un, c'est presque un acte amoureux, quoi. Mon père me disait souvent « Quand tu fais rire une femme, tu l'as à moitié dans ton lit. » Bon, quelle moitié, je ne sais pas. Mais
c'est la deuxième moitié qui est la plus difficile en même temps. Hein.
Voilà, mais c'est vrai que le rire, c'est faire rire quelqu'un. C'est presque... c'est presque... Donc bref, je reviens au propos... Donc ça a provoqué un tollé et Thierry Ardisson, qui est un homme extrêmement courageux, a accablé le réalisateur de l'émission en disant que c'était ce connard qui avait zoomé sur le badge.
Alors que c'était dans le script.
Que c'était pas lui.
Ouais. Vous citez d'ailleurs dans votre livre deux questions de Desproges, justement, peut-on rire de tout et peut-on rire de tout avec n'importe qui?
Pardonnez-moi, Antoine, oui. Une demi-seconde, parce que ce festival ne serait rien sans les bénévoles. Regardez, ils savent
merci
tout
beaucoup.
Faire. Merci de remercier les bénévoles avec vos applaudissements. Antoine.
Eh bien, avec cet exemple concret que vous avez vécu, Stéphane Guillon, vous ne pouviez pas rire de tout, et surtout ne pas rire avec n'importe qui.
Oui.
Merci.
Non, mais je suis d'accord avec vous. Moi, il y a des gens avec qui j'ai pas envie de rire.
Mais visiblement, ça vous peine encore d'en parler. Hein.
Mais je connaissais bien.
C'est une grosse rancœur.
Je connaissais bien Charb. Je l'ai vu quelques semaines avant sa mort. Il m'avait offert un dessin avec Guillon Akbar et son numéro de téléphone. On devait se revoir. Donc, oui, que ce garçon soit mort dans ces circonstances, se soit vu mourir parce qu'il s'est vu mourir, Ceux qui ont lu le bouquin de Philippe Lançon, Le Lambeau, bon, voilà.
Sublime bouquin.
Oui, donc, oui, je pense qu'avoir assassiné une rédaction d'un journal satirique qu'on n'a pas protégé en plus, parce que là aussi, c'est un scandale d'État. Je suis désolé, quand une rédaction a été incendiée, quand une rédaction a été menacée comme il l'avait été, on protège ces gens-là.
Il faut quand même rendre hommage au policier qui a été tué dans la salle de rédaction.
Oui, parce que lui, il s'est sacrifié, indiscutablement. Mais ils n'étaient pas assez nombreux.
Mais ça, c'est clair. On peut lui rendre hommage et dire exactement ce que j'ai dit.
Absolument. Antoine Échaquet, pour prolonger sur cette question, vous qui avez pris un peu de recul par rapport à la presse dans laquelle vous avez été trempé pendant des années.
C'est vous qui le dites, pas du tout. Je suis passionné, en ce moment je suis
Mais passionné, n'empêche
pas. Dans la presse dans laquelle vous avez trempé, c'est ça que
Trempé, oui,
vous avez noté. Hein.
On peut
Il y a un choix de vocabulaire qui est précis.
Il y a un côté juge et parti.
Oui, vous avez trempé.
Voilà. J'ai un véritable.
Vous n'avez pas travaillé avec eux, vous n'avez pas participé. Non, vous avez trempé.
Stéphane, je vais tout vous dire.
Non, mais je presse. Voilà, les mots ont un sens.
C'était mon patron, donc ceci explique peut-être ça.
Ah, voilà, vous réglez, moi, je vais vous laisser alors.
On est en
je vais vous laisser régler vos comptes.
Non, non, mais on est en pleine transparence. D'accord. Voilà. C'était il y a 14 ans ou 15 ans, mais il a été mon patron, effectivement.
Bon, évite de me tutoyer en public quand même.
Je ne vous tutoie pas du tout, cher Antoine, maintenant tu te tais. Quand vous lisez la presse d'aujourd'hui, Antoine Échaquet, vous avez l'impression que parfois on traite des sujets où on invite des gens qu'on ne devrait pas inviter ou pas au bon moment.
Non, ça pas tellement. Non, ce qui me choque plus, ou qui m'interpelle, c'est qu'on a l'impression que l'on vit dans un pays tranquille, ce qui est vrai, dans une situation assez confortable, ce qui est vrai, et qu'on est parfois coupé des sonnettes du monde, qui sonnent, et on a l'impression d'en être coupé. Alors on se dit, oui, mais on doit faire du micro-local tranquille, on suit les conseils communaux, on suit...
Il faut peut-être expliquer pour les non-initiés ce que c'est le micro-local, c'est les inaugurations de fontaines, les ouvertures de boulangeries et les baptêmes.
Exactement, on donne dans ce genre-là, on ne dit pas qu'il est construit, qui a taillé la pierre de la fontaine, ça ne va pas jusque-là, mais enfin on explique que la fontaine est nouvelle et que l'eau va être payante dans quelques temps, donc au moins il y a quelque chose. Ce serait une fable, ta fontaine.
Mais c'est un journalisme en voie de disparition, ça.
C'est un journalisme en voie de disparition, mais c'est devenu quelque chose de très classique. Il y a quelque chose de formidable, d'ailleurs, en niveau national en Suisse. Il y avait dans notre palais fédéral, Stéphane Guillon, la salle des pas perdus. Et puis au-dessus, les studios de la télévision, à l'époque. Ce qui fait que si l'on voulait obtenir un scoop ou quelque chose d'un peu politique, qui soit bien, qui soit fort, on était toujours dans cette salle-là. Maintenant, on a construit un énorme centre de presse à la rue adjacente et le gouvernement suisse, le Conseil fédéral ici, tient sa conférence de presse une fois par semaine. Donc les journalistes attendent l'heure de la conférence de presse. Et on a beaucoup, soit dit en passant, parlé de cette salle de presse parce qu'un jour, l'été était chaud, il y avait la canicule, un peu comme cette année, et il y avait le maillot de bain et les bikinis des journalistes qui séchaient au soleil de la façade. Ce que je vous raconte est authentique, hein, ce n'est pas de la rigolade. Donc, le métier s'est un peu fonctionnarisé. J'ai été fonctionnaire fédéral, je sais ce que c'est, donc je peux le dire. Et vraiment fonctionnarisé au point où on ne cherche plus la différence que le discours officiel. Et ça, c'est quelque chose qui me préoccupe, parce que c'est aussi le cas au niveau local, dans les communes et dans le reste. On dit, le syndic, à Genève, vous avez un maire, à Lausanne, vous avez un syndic, en Valais, vous avez un président. C'est la Confédération suisse, c'est assez compliqué.
C'est le bordel.
Donc il faut traduire dans la même langue, mais il faut traduire tout de même. Voilà, c'est ça qui me désespère un peu.
Je reviens à Stéphane Guillon sur ce que je disais en ouverture de rencontre par rapport à la violence exprimée contre vous, chez vous, là où vous habitez, des croix gammées taguées sur le portail.
Oui, on en a eu quelques-unes.
FN taguées sur le portail. Oui. Vous dites d'ailleurs que votre budget peinture recouvrante a passablement augmenté ces dernières années.
Oui.
Est-ce que c'est le genre de pression qui pourrait faire que sur un tweet contre Marine Le Pen, de temps en temps, je dis wow, je suis un peu fatigué de repeindre.
Non, parce qu'un tag, c'est jamais agréable. C'est comme il y a un moment donné, j'avais des sacs d'ordures qui étaient balancés par-dessus mon portail. C'est pas agréable quand ça arrive, c'est vrai. Mais
c'est pas flippant un peu.
Vous savez, il y a quand même des pays où les caricaturistes se font péter les doigts de la main. Donc, il faut relativiser aussi. On a quand même une très grande liberté et. Je ne sais pas si j'aurais les couilles de faire ce que je fais dans d'autres pays. Hein. Voilà, courageux, mais à un moment donné...
courageux, mais pas téméraire.
C'est pour ça que moi, j'ai tendance à dire quand même, voilà, à relativiser ce genre d'incident. Quoi.
Antoine Chaquet, quand on est patron de presse ou rédacteur en chef, comme vous l'avez été, on est parfois, alors peut-être pas dans les mêmes proportions, mais un petit tag sur la porte ou une lettre anonyme ou un coup de fil, des pressions.
Jusqu'aux menaces de mort, deux fois.
Sérieux ?
Deux fois, en tant que rédacteur en chef, là. Oui, deux
carrément.
Fois. Deux fois, c'était lors de l'affaire COP, je peux le dire tout à fait clairement.
Waouh. Wow.
Ouais. Et là, vous êtes venu sans vos gardes du corps ?
Non.
Ce n'est pas très prudent.
Non, c'est pas.
Mais... Est-ce qu'on a fouillé les gens
Mais cela dit, les menaces de mort ne sont jamais dangereuses parce que la personne qui veut vous tuer, elle le fait, elle l'annonce
pas. Elle l'annonce pas, effectivement.
Oui, en Corse. On n'annonce pas. Non, on vient vous voir.
Après le pastis.
Je reviens sur une autre chose que j'ai trouvée dans votre journal, Stéphane Guillon. Vous revenez sur l'info, Macron a payé ses costumes avec ses propres deniers. Référence évidemment à ceux qui ont été offerts à François Fillon dans les conditions que l'on sait. Et vous vous adressez à Edoui Plenel, l'ancien du Monde et un des patrons de Mediapart. Et vous lui dites... Je sais, Edoui, toi et moi, on est des charognards. Enfin, surtout toi. Sans scandale, sans malversation, sans cadavre, on est fichu. Charognard, vraiment ?
Vous avez noté que dans ce livre, je pousse souvent les feux pour provoquer le rire.
Vous avez remarqué que dans cet entretien, j'utilise souvent votre rire pour essayer de vous faire dire des choses.
Voilà. Ouais. Donc, non, mais c'est un des paradoxes amusants du métier d'humoriste, c'est que finalement, on bosse quand tout va mal. Et que quand les choses s'arrangent, c'est chiant.
On est presque au chômage, ouais.
Voilà. Et c'est vrai que nous, on a eu une année noire l'année dernière où Sarkozy a arrêté de faire de la politique, Fillon a arrêté de faire politique. Christine Boutin a dit qu'elle ne ferait plus jamais de politique. C'est là où on se dit, allons à Cédic tout de suite, quoi. Ouais. Ces gens-là nous font vivre.
Nadine Morano sévit encore un peu.
Il faut peut-être dire à nos amis suisses que je suis arrivé depuis une demi-heure, oui. Parce qu'ils n'arrêtent pas de m'appeler.
D'accord. Bon, il est là, hein. Si jamais. Je vais prolonger avec.
J'aimerais bien continuer, pardon,
là-dessus,
avec
oui.
Stéphane Guillon.
Je vais prolonger là-dessus.
Là, ça pose une question intéressante. Quand il n'y a. Vous arrivez à m'écouter de l'oreille droite ?
Ne vous inquiétez pas, je vous écoute, mais je coupe cet instrument de torture.
De torture.
Lorsqu'il n'y a pas d'actualité et que vous faites une revue de presse, il faut être créatif, il faut trouver autre chose. Est-ce que vous n'êtes pas piégé là, parce que vous êtes obligé de citer Bolloré ou je ne sais qui, d'aller exprès trop loin à l'excès, faute de sujet et autres, et puis en plus... Si vous étiez resté, je ne sais pas, à Canal+, à M6, ou je ne sais pas, 20 ans, on se dirait c'est l'humoriste attitré. Il faut un moment qu'il se fasse virer, sinon ce ne serait pas crédible. Est-ce que j'exagère ?
Oui. Ah. Oui, parce que c'est un reproche que certains m'ont fait, et il se fait virer pour qu'on parle de lui, ou etc. Moi, j'ai toujours cherché à faire mon boulot de la façon la plus honnête possible, avec la plus grande pluralité possible. Il faut bien comprendre qu'à Canal+, quand M. Bolloré arrive, qu'est-ce que j'aurais dû faire, finalement ? On va poser la question dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'aurais dû me moquer des excès des uns et des autres et m'arrêter aux excès de mon patron, sous prétexte qu'il me payait. Donc, qu'est-ce qu'auraient dit les gens, finalement ? Ben, Guillon, il fait son boulot, sauf quand ça met en danger son beefsteak. Donc, je pense que j'aurais perdu toute ma crédibilité. Toute ma crédibilité. Donc, j'allais pas taper sur Bolloré pour taper sur Bolloré, mais quand Bolloré était dans l'actualité suite à certaines malversations, là, je faisais mon boulot. Je faisais mon boulot. Et voilà, mais là, vous touchez un point central. Et à France Inter, les histoires sont similaires. Bon, il y avait un service public et après une chaîne privée. Mais à France Inter, c'était pareil. À France Inter, Nicolas Sarkozy nommait les présidents de France Télévisions, etc. Il avait mis ses copains. On était emmerdés au quotidien. Et on y allait. On y allait et on s'est fait virer parce qu'on y allait, parce qu'on faisait le boulot. Vous savez, Frédéric Schlesinger, qui était le patron de France Inter. J'ai déjeuné avec lui plusieurs années après avoir été viré de France Inter. Et je lui ai dit, mais pourquoi finalement vous nous avez viré, Didier Porte et moi? Et il m'a regardé, il m'a dit 2 millions. Je lui ai dit, pardon. Il m'a dit, vous faisiez rire 2 millions de personnes tous les jours aux dépens de Nicolas Sarkozy.
C'est 2 millions de voix.
À 6 mois d'une élection présidentielle. Ça suffit, hein. C'est pas... Et c'était le patron de France Inter qui me disait ça. C'était pas... vous savez, c'est comme quand je suis convoqué par le président de Radio France à l'époque, je ne sais plus comment il s'appelait. Il me convoque, il m'offre un thé vert, déjà, 7h du matin.
Ça part mal. Hein.
Ça commence mal.
C'est zen.
Oui, mais enfin, quand même, je me rappelle, dans ce bureau, très très beau, le bureau de Radio France, magnifique, il avait deux théières de thé vert. Il parlait tout doucement. Et il me dit, Stéphane Guillon, on m'a demandé de vous calmer. C'est-à-dire, j'ai repris le titre pour un de mes livres. Et je lui dis, pardon, président, on m'a demandé de vous calmer. Je lui dis, qui on? On. C'était surréaliste.
Non, c'est dingue.
C'est-à-dire que moi, qui étais humoriste, qui venait d'être engagé en me disant ta carte blanche, je me retrouvais dans un mauvais film de série B. On m'a demandé de vous calmer. Hallucinant, cette phrase. Donc voilà, tout est dit.
On arrive pratiquement au terme du temps qui nous est imparti, mais j'en ai dit un mot tout à l'heure, j'aimerais y revenir, Stéphane Guillon. Vous dites tout de voir à Canal+, votre succès, votre amour avec Muriel, votre notoriété, et vous êtes sidéré, ça vous en parlait à la fin du livre, par la nouvelle direction qui finit par vous virer. Vous dites, les nouveaux dirigeants provoquent en vous un sentiment étrange, comme si les stewards d'un avion nous annonçaient que désormais, c'est eux qui pilotent l'appareil. Je trouve l'image très jolie. Et assez parlante.
Oui, parce qu'ils m'ont convoqué un jour, je vois des mecs comme ça, sans consistance, sans odeur, sans saveur. Et du coup, je me dis, c'est les hôtes d'accueil, quoi. C'est les directeurs vont arriver. Et je m'aperçois au bout de 10 minutes que ce sont les directeurs de Canal, quoi. C'est-à-dire que je suis pas du tout avec le. J'ai aucun mépris pour les hôtesses hein, d'accueil, mais je me dis, tiens, c'est eux qui font les programmes. J'en parle, donc j'ai cette. Je dis, c'est effectivement comme si les stewards d'un 747 vous disaient dorénavant, c'est nous qui pilotons l'appareil. Ça doit être flippant, quoi.
Antoine Chaquet, vous me voyez arriver. En Suisse, on a le même problème, sauf que les stewards parlent suisse-allemand.
Ja, natürlich. Warum nicht? Gute Sache.
On est un peu dans le même cas de figure?
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je pense que c'est historique. Les Suisses sont consensuels. Les partis sont représentés au gouvernement. On est beaucoup plus timide. Sauf que le consensus, de mon point de vue subjectif, se porte de moins en moins bien. Mais là, on n'est plus...
En même temps, consensus, ça fait trois gros mots.
On n'est plus dans, oui. On n'est plus dans le drôle du tout. Mais enfin, personnellement, que ce soit en tant que rédacteur en chef ou directeur d'une autre rédaction, je n'ai jamais subi de pression d'ordre politique, quelle que soit.
Deux menaces de mort, mais pas de pression politique.
Ça, c'était pour une affaire différente.
Un peu politique, quand même.
Un peu politique, oui, on peut le dire.
Je me tourne vers vous. Oui, Stéphane, bien sûr.
Est-ce que vous savez comment on appelle les stewards à Air France, le surnom des stewards officiels à Air France? Hôtesse à couilles. Voilà, parce qu'il faut détendre l'atmosphère à un moment donné.
Oui, un tout petit peu. Il nous reste quelques minutes. Si vous avez des questions pour Antoine Chaquet ou pour Stéphane Guillon, monsieur, on vous apporte un micro. On court avec le micro qui se tend derrière la paroi noire. Il y a une bénévole habillée en violet qui prend le micro, qui va passer le témoin directement au premier poseur de questions. Qu'on écoute.
S'il fonctionne ?
Oui, c'est bon.
Oui, il marche.
Merci beaucoup. Je m'appelle Bertrand Vell, j'habite la région. J'ai une question pour monsieur Stéphane Guillon. Bon, j'écoute vos chroniques depuis longtemps, celles que vous faites par exemple chez Ardisson, vous avez fait pendant très longtemps. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en dégommant tout le monde politique français, vous roulez pour quelqu'un, vous roulez pour certains?
Je pense que je roulerais pour quelqu'un si justement je dégommais pas tout le monde.
Oui, justement, par exemple, vous dégommez Marine Le Pen, Ça, c'est une broussible, hein, préférée. Vous la dégommez, vous dites ce que vous avez envie de dire. Après, vous passez à Ségolène Royal, vous êtes encore pire. Alors, ça veut dire quoi? Ça non, veut dire ça... que Ségolène Royal, c'est la famille politique opposée.
Non, je pense. Est-ce qu'il y a une échelle de traitement en fonction du parti?
Justement, je pense, alors là je m'inscris, pardon, hein, totalement en faux par rapport à ça, mais par exemple, je me souviens quand j'ai tapé sur le front de gauche, la France insoumise, quand j'ai fait mon boulot, à un moment donné, je trouvais que Mélenchon allait beaucoup trop loin, et donc je me suis mis à attaquer Mélenchon par l'humour. J'avais des commentaires outrés en me disant, mais comment toi, alors qu'on est venu te soutenir quand tu as été viré à France Inter, comment toi, humoriste de gauche, tu peux nous rentrer dedans, salaud, traître, etc. Mais moi, je suis désolé, je ne roule pour aucune chapelle. Je pense que ma légitimité aujourd'hui, si j'en ai encore une, c'est que justement, j'attaque la droite quand elle mérite d'être attaquée, j'attaque la gauche quand elle mérite d'être attaquée, et je pense que mes attaques sur la droite ont de la valeur parce que j'ai pas hésité aussi à attaquer la gauche. Si un humoriste devient partisan, il fait plus son boulot,
c'est foutu, ouais.
C'est fichu, et du coup, on se dit, bah oui, ok, il tape, ok, bon, alors il est, ok, c'est un humoriste de gauche, donc oui, bon, bah il tape sur Nicolas Sarkozy, bah parce qu'il est de gauche.
Ouais. Ok, merci. On passe le micro à monsieur devant, avec plaisir, et on vous écoute.
Merci, Babolchoï. En tant que en partie anglo-russe, je voulais savoir, je pose la question à Maître Stéphane Guillon, est-ce que vous avez un peu de sang british, parce que votre humour me rappelle celui de mon grand-oncle qui était british, même le physique. Voilà.
Bon, si on cherche bien, dans quelques minutes, vous êtes cousin, hein, mais...
Là, on vous le fait à l'anglaise. Hein.
Ouais. L'humour, oui, l'humour anglais... L'humour juif, merci, je prends le compliment. Et alors, cette élégance so british, merci monsieur. Merci infiniment. Si je peux vous offrir quelque chose après.
Il a un café, mais il est froid, je crois, hein, maintenant.
Oui.
Bah
écoutez.
Il est pas, c'est mon livre qui va y passer, mais on va le faire, il n'y a pas de souci. Bon. Autre question? On vous écoute.
Oui, tout d'abord, Stéphane Guillon, merci pour votre humour et votre intelligence, parce que vous y alliez les deux de manière formidable. Je me rappelle...
Vous avez bien fait de venir aujourd'hui, Stéphane. Hein.
Non, mais oui, mais le monsieur a dit « vous aviez », ce qui est terrible.
Ouais. Ouais, en même temps, c'est vrai. Ouais.
Tu vois le truc, hein, ouais, c'est terrible. Vous aviez.
C'est moche, quand même.
Et maintenant, et vous êtes sur la touche...
Tu sais, on va faire un truc. On refait là.
OK. Non.
Vous avez.
Vous savez pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai pas une vie de merde, mais le matin, quand j'allais travailler, je vous entendais sur France Inter. Et souvent, ça m'arrivait de m'arrêter sur le bas-côté pour écouter la fin de votre chronique,
la crise de manque
avant d'arriver au parking. Bref, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous indigne le plus? Et puis, avec le nouveau président, avec Macron, est-ce que la vie est plus facile ou elle est encore plus compliquée? Parce qu'on entend un peu les deux.
Alors, il y a deux questions.
Moi, ce qui m'indigne le plus, mais ça m'a indigné pour François Hollande et ça m'indigne pour Macron de la même façon, parce que je trouve ça très grave, c'est les gens qui ne tiennent pas leurs promesses électorales. Parce que ces gens suscitent de la désespérance, et la désespérance conduit au vote extrême. Deux exemples. François Hollande avait promis une présidence normale. Et moi, l'idée de la présidence normale, je trouvais ça très intéressant, surtout en France, qui est quand même une république bananière, où il y a une gabegie terrible au niveau du train de vie de nos ministres et de nos présidents. Je trouvais que tout d'un coup, être normal, comme certains gouvernements des pays nordiques, qui sont des gens qui prennent le métro et qui doivent justifier chaque ticket de métro... voilà, ça, je trouvais, par rapport à des gens qui sont dans une extrême pauvreté, je trouvais que le symbole était intéressant et que finalement la présidence normale de François Hollande, il ne l'a pas mise en route. Il a fait comme tous les autres, il a multiplié les dîners d'État qui nous coûtent une fortune, etc., etc. Et Macron nous a dit qu'il ne ferait pas comme les autres. Que la politique à la papa, c'était terminé. Et on vient de s'apercevoir, avec des exemples très précis, que finalement, c'est la République des copains. Philippe Besson, que je connais bien, qui est quelqu'un que j'apprécie, qui est envoyé maintenant ambassadeur à Los Angeles, après avoir écrit un bouquin très sympathique sur Emmanuel Macron. L'affaire Benalla, tout d'un coup, voilà, c'est très public de copains. Et voilà, et ça, ces exemples-là, ça me met très en colère, parce que je me dis, alors, le prochain, qu'est-ce qu'il va nous promettre? Et je vous dis, ça pousse les gens à une certaine forme de, ou de désespérance ou d'indifférence. C'est terrible, l'indifférence. Ouais. C'est pour ça que finalement, on est dans un pays où les gens ne votent plus. C'est pas la peine d'y aller. Bah, si, c'est la peine d'y aller, mon pote. Il y a des gens qui sont morts pour le droit de vote. Vas-y. Et les gens n'y vont plus.
On a le temps pour une dernière question. Mais ce sera la dernière. Une fois.
Une deux fois, fois. Deux fois.
Trois fois. Adjugé. Je vous rappelle les titres des livres.
S'il vous plaît, rappelez qu'on en vend un peu quand même. Hein.
Et puis, monsieur, vous viendrez me voir, je vous offrirai le livre de Stéphane Guillon. Stéphane Guillon, Journal d'un infréquentable, 2015-2017, chez Grasset. Antoine Exchaquet, Fake News, Les Maniques, roman pamphlétaire, chez Chaubert Édition. Vous serez tous les deux sous la tente dans quelques minutes pour signer les exemplaires qu'on voudra bien.
Et ça, c'est le prochain, ça, c'est ça,
ah, ça c'est de la déco, ça.
Mais... C'est de la déco, ça.
Oui, oui. Mais c'est des vrais livres.
Ah, c'est d'accord.
Donc, on peut partir avec.
Ah ouais, ouais, bah non.
Non, d'accord, ok. Olivier Nora, si vous nous entendez.
Ah, Olivier Nora, il est déjà reparti.
Il est là,
il
en plus.
Non, il est dans le train.
Non, mais c'est votre maison, en plus, grâce
non,
à...
Non, mais bien sûr, non, mais je dis... Puis c'est,
esprit libre, va.
Oui, non, il n'y a pas de souci, grâce à... C'est une belle maison.
Je vais vous demander de remercier très chaleureusement Antoine Exchaquet et Stéphane Guillon avec vos applaudissements, s'il vous plaît.
Merci. Merci.